With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut, c'est We Love MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We Love Cinéma. À We Love MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises et donc, aujourd'hui, on va parler d'Albert Dupontel, de son dernier film et puis un peu de sa carrière. Et à mes côtés, ou presque à mes côtés, parce qu'on est en mode confinement, MDR repasse en mode confinement, donc j'ai deux strikers de choix, deux chroniqueurs de luxe que la terre nous envie. Je pèse mes mots. Perrine Kenson, hello.
Hello, salut tout le monde.
Et hello Hugo Alexandre.
Salut Daniel et merci pour ce très beau compliment. On m'avait jamais dit ça.
Ah mais non mais
moi non plus mais je prends.
Je reçois des PayPal jour et nuit pour essayer de me racheter. Et Perrine et Hugo et je dis non jamais. Ils sont à MDR, jamais je vous les laisserai. Donc
on peut en discuter nous avec eux ou non?
Non, d'accord. Alors aujourd'hui, on va parler d'Albert Dupontel, on va parler un peu de son dernier film, qu'est-ce que ça vous évoque Albert Dupontel, Perrine, est-ce que tu veux te lancer?
Oui, bah, moi ce que ça m'évoque, c'est une certaine irrévérence, c'est une certaine violence aussi, une violence qu'elle subit par ses personnages et qu'il retranscrit de manière, peut-être une violence morale qu'il retranscrit de manière ultra visuelle. Et voilà, un espèce de clown trash. C'est un peu ça que m'évoque quand je pense à Dupontel, je pense à ça, je pense au cartoon, quoi. C'est un peu l'idée.
Et toi, Hugo, est-ce que t'es plutôt cartoon ou t'es plutôt violence?
J'aime les deux. J'aime les deux chez Dupontel. Et ce que j'aime chez lui, c'est que c'est avant tout un véritable auteur de comédie. Et puis, il n'y en a pas forcément tant que ça. C'est-à-dire qu'il a un vrai univers. Il apporte vraiment quelque chose de très personnel, que ce soit dans les thématiques, mais aussi dans la manière de les traiter. Donc, c'est toujours des thématiques très sociales. Il a toujours un propos à dire, à donner sur les petites gens qui sont toujours un peu écrasés par le système. Et puis, il a une façon de raconter les choses. Effectivement, cet humour noir très burlesque. Et aussi, cette envie de mise en scène, ce goût du cinéma, ce côté très cinéphile qui se voit depuis le début. Même quand il joue chez d'autres, on sent que il va suivre des projets où il y a une envie de cinéma, quoi. Donc c'est pas la comédie, le tout venant de la comédie, c'est vraiment un vrai auteur, quoi.
C'est un vrai auteur et qui amène avec lui certes de l'humour, mais aussi une espèce de part de tragédie. Tu le disais, Hugo, il joue chez les autres réalisateurs, il joue toujours des rôles sur le bord, au bord de la falaise, quoi. On a l'impression qu'il est toujours poussé à l'extrême, et j'ai l'impression qu'il aura jamais de rôle. On le prend pas pour jouer un rôle neutre, en fait. Il est une espèce de radicalité, je lui trouve, une radicalité qu'on peut trouver, par exemple, chez Delphine et Carverne. Mais Delphine Carverne, eux, ils sont presque dans le doux amer. Lui, il est plus, il a une forme d'engagement, en fait, dans chacun de ses films.
Bah déjà, il a une tronche, hein, faut le dire. C'est ça, je pense, que Carverne et Delphine aiment bien déjà. Et c'est vrai qu'il a un jeu très très expressif, quoi. Il vient de la scène à la base. Il vient du one man show. Et donc du coup, on vient chercher ce personnage là. Et lui a exploité sa propre personnalité depuis le début avec Bernie, etc. Et donc, oui, il a quelque chose comme acteur aussi, quoi.
Ouais, il transporte, en fait. Quand on vient chercher Dupontel, c'est pas par hasard. C'est-à-dire que tu parlais qu'il avait une tronche, mais je trouve même qu'il a un physique, en fait. C'est-à-dire qu'il a ce physique un peu trapu et cet air d'être toujours... Tu parlais au bord de la falaise tout à l'heure, Daniel, mais c'est vrai qu'il a ce truc très tremblant. On a l'impression qu'il tremble de colère tout le temps, en fait. Même dans sa manière de parler, qui est une manière très très pressé de parler, comme si on n'avait pas le temps de le laisser finir ses phrases. Il avait peur qu'on ne le laisse pas finir ses phrases, en fait. Et donc, il va très très vite.
On a l'impression qu'il étouffe par moments.
Il y a une anxiété, il y a une angoisse chez lui qui est une angoisse de l'injustice, en fait. Une angoisse très très forte. Et je pense que quand il va jouer chez d'autres réalisateurs, on parlait de Carverne et de Lepine, qui eux ont une plus grande poésie, je dirais. Lui, il va pas du tout sur le côté poète, mais il a une manière de transformer cette anxiété et cette violence. Mais moi, j'aime bien, par exemple, quand on voit chez Blier, ou quand on le voit aussi chez... je suis en train de chercher son nom, là, dans Deux jours à tuer, de Jean Becker. Quand il va chez Jean Becker, il va transporter cette espèce de colère qui va si bien à son phrasé, qui va si bien à son physique. C'est vrai qu'on va pas le chercher pour de la tiédeur. On aime bien
chez
ça.
Chez Blier, on va le chercher pour jouer un cancer, quoi.
Ah ouais, par exemple. Il y a pas plus anxieux que ça.
Et même dans des films très mineurs. Enfin, par exemple, je vais citer un film que je déteste de toute mon âme, qui s'appelle Fauteuil d'orchestre de Daniel Thompson. Et même chez Daniel Thompson, vu le rôle qu'il a, il amène toujours cette forme de pression. On a l'impression que c'est quelqu'un qui je sais pas comment il est dans la vie, mais qui porte en lui la dépression, ou du moins une forme de marasme contre lequel.
Qui a une vie intérieure très forte, en tout cas.
Qui a une vie intérieure forte.
Qui se lit dans ses yeux.
Et surtout qui ne baisse pas les bras et qui lutte contre ça.
Ouais.
Et je pense que, c'est pas un hasard s'il jouait dans Le Grand Soir. C'est que, je pense que sa filmo est placée sous le signe de la lutte. Alors, c'est peut-être l'occasion. Adieu les cons. Déjà, le titre est une lutte. Hein. Déjà, c'est, ouais. Allez vous faire foutre, hein, le titre. Qu'est-ce que vous avez pensé du dernier Dupontel, du cru 2020? Qui veut se lancer, Hugo, puisque tu...
Alors moi, je suis assez mitigé sur ce film. Je trouve que le titre, d'ailleurs, résume bien le contenu du film. C'est-à-dire que c'est toujours un peu le même message. C'est-à-dire il va raconter la trajectoire de petites gens, entre guillemets, qui sont écrasés par l'administration, quoi. Et qui vont dire fuck à la société, quoi. Et le truc, c'est que je trouvais que, en général, il arrive à le faire de manière subtile, entre guillemets, quoique on peut. Enfin, le mot subtil s'applique peut-être difficilement à des films comme Bernie. Mais en tout cas, je trouve que là, il traite son sujet de manière vachement premier degré. Et je trouve que son propos est un peu limité. Et se limite à ce thème-là sans aller beaucoup plus loin. Et je trouve que c'est un peu plus aussi gentillet dans le traitement par rapport à ses films précédents. Enfin, je trouve qu'il y a un petit côté Amélie Poulain qui me saoule un peu, en fait.
C'est une reproche qu'on va beaucoup entendre. Qu'est-ce que toi, t'en penses, Perrine?
Ouais, je suis un petit peu aussi un peu mitigée sur Adieu les cons. C'est-à-dire qu'en soi, comme beaucoup d'auteurs ciné très engagés, très sociaux, on parlait de Carverne et de Lepine, ou même je pense à quelqu'un comme Ken Loach dans un genre complètement différent, ils vont traiter des problématiques qui reviennent à chaque film. Chaque film ne va être qu'une pierre à leur édifice à la fois contestataire, à la fois militant, qui est très fort, et Adieu les cons, à ce niveau-là, fait le job aussi. Mais moi, je trouve, tu parlais d'une absence de subtilité, je suis assez d'accord avec ça, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai une sensation d'inabouti quand je regarde le film, en fait. C'est-à-dire qu'à plein de moments, notamment le rapport avec le personnage aveugle, qui ne sert littéralement que de pilier comique, mais qui n'a pas de... à part peut-être une scène, mais il n'a vraiment pas vraiment de force, en tout cas. On ne lui donne pas beaucoup d'amplitude à ce personnage-là. Il y a un très beau personnage joué par... comment elle s'appelle, Virginie Efira, que pour le coup je trouve est la grande réussite de ce film. Mais moi je trouve que ça tourne un petit peu en rond, beaucoup d'effets de manche, beaucoup. Moi j'ai l'impression qu'il saute du coq à l'âne, cette espèce de course en avant, désespérée, quasiment un peu une sorte de Thelma et Louise ou de Bonnie and Clyde de l'injustice sociale et administrative.
Ouais, en fait.
Finalement, ça, ouais. Moi, je trouve qu'au bout d'un moment, c'est pas que je m'ennuie, mais je trouve qu'il y a quelque chose où ça tourne un petit peu à vide. Et je trouve ça un peu dommage, quoi. Il y a une sorte de perte de carburant ou une perte d'envie. J'arrive pas à savoir ce qui va pas.
Ouais, tu dis ça tourne à vide. Et en fait, effectivement, pendant la moitié du film, on se dit, mais où ça va, cette histoire? Et en fait, ça va quelque part. Et je trouve que la destination vaut pas vraiment le coup, quoi. Enfin, on va pas raconter la fin du film, mais il y a une sous-intrigue qui est quand même pas très...
Tu peux l'évoquer, hein, parce que en même temps, les cinémas, alors on...
Oui, ouais.
Voilà. Bon, en fait, faut respecter les gens qui iront le voir au premier jour de réouverture du cinéma.
Non, mais après, c'est quand même l'intrigue principale. C'est Virginie Efira, elle cherche son fils...
Oui, qui lui a été retiré quand il était jeune.
Et voilà, elle rencontre son fils et elle va apprendre que son fils a pas une vie géniale. Et donc, du coup, elle va un peu faire en sorte que son fils se rende compte de ce que c'est que la vraie vie et tout. Et donc, c'est là le côté un peu Amélie Poulain, quoi.
C'est tellement bizarrement amené, cette histoire.
Ouais, je trouve que c'est
pas à la hauteur, j'ai beaucoup de soucis avec ce film. D'abord, parce que... Quand je le vois, alors moi j'aime plutôt les films de Caro et Jeunet, surtout à l'époque où c'était le duo Caro et Jeunet. Et là, pendant tout le film, je me dis en fait j'ai l'impression que ça. Quand je vois ce film, je me dis ça a fait plus de mal que de bien en fait, parce qu'il y a des sursignification des plans, il y a une volonté un peu cartoon de mettre en place une dramaturgie et c'est bizarre parce que c'est vraiment le propos de Dupontel de faire ça, et là je sais pas pourquoi la sauce prenait pas sur moi. Il y avait, je pensais à, dans ma tête j'étais en train de penser à Micmac à tire-larigot et je me disais est-ce que pourquoi il va dans cette direction, et pour moi le clou du cercueil du film, c'est-à-dire le début fonctionne à peu près, et après quand il rencontre son fils et que tu comprends la problématique du fils, tu fais ah ouais non mais en fait c'est pas, j'ai pas envie d'entendre parler de cette histoire en fait c'est une histoire d'un fils qui stalk une fille pendant, et genre c'est présenté de manière
ultra romantique, c'est romanesque.
Il m'a perdu dans le romanesque ici, alors là j'étais dégoûté, moi j'étais...
En plus c'est l'histoire, enfin c'est un informaticien, donc il est informaticien, donc il est reclus chez lui forcément, et donc il sait pas s'exprimer. Enfin je dis pas ça parce que je suis informaticien et que j'ai pu mal prendre le truc, mais c'est quand même hyper cliché. Et d'ailleurs, toute la thématique, les nouvelles technologies, couple, lien social, tout ça, j'ai l'impression de voir ça dans un peu tous les films, mais j'attends un peu mieux de lui. J'attends un message un peu plus subtil que on est noyé par l'administration et les nouvelles technologies, quoi.
Oui, et puis l'aspect adieu les cons, encore une fois. Adieu les cons de l'administration, très bien. Adieu les cons de la police, très bien. Mais je trouve qu'à la fin, justement, le rapport à cette histoire qui se voudrait romanesque ou romantique, je ne sais pas, finalement, c'est un peu adieu les cons de la bien-pensance. Non, il ne stalke pas, c'est un grand romantique, c'est très beau ce qu'il fait. Et d'ailleurs, non, c'est pas hyper joli non plus. Enfin, moi, je trouve ça un petit peu... Je trouve que ça pue un peu la naphtaline, votre affaire.
Il n'ose pas avouer son amour, quoi.
Tout à l'heure, on comparait ça à d'autres cinéastes. Tu parlais de Caro Jeunet, parce que oui, on y pense. Il y a quelque chose de très jaune dans le film. Mais moi, je pensais beaucoup à Terry Gilliam, qui clairement apparaît dedans et qui est un grand ami de Dupontel. Et honnêtement, moi, ça m'a fait vraiment l'effet d'un film de Terry Gilliam. C'est-à-dire, il y a une idée, il y a une ambiance, il y a une volonté, mais alors il y a des choses qui ne se connectent pas ensemble, en fait. Il y a quelque chose où, finalement, la recette ne prend pas jusqu'au bout. Soit ça ne s'est pas achevé, soit ça ne s'est pas progressé, mais à un moment donné, ça s'emberlificote les pieds dans son propre aspect fantasque, qui, finalement, fait tomber le film à l'eau. Pour moi, c'est dans la lignée des plus mauvais films, en fait, peut-être de Terry Gilliam aussi. Donc, je trouve que sans dire que c'est très mauvais, parce que je ne pense pas qu'Adieu les cons soit très mauvais, je pense juste que ce n'est pas tout à fait à la hauteur de ce que,
ouais,
de ce que je m'attendais.
Il ne faut pas qu'on dise que du mal non plus, parce que c'est vrai que je me rends compte que
c'est pas nul.
En en parlant comme ça, on dit que des points négatifs. C'est quand même, j'ai quand même passé un pas mauvais moment. Et un film moyen de Dupontel, ça reste en général des bons films. Et il y a toujours ces personnages, ces
seconds
rôles.
C'est pas 9 mois ferme, c'est pas...
Non, c'est
plutôt... C'est pas au revoir là-haut.
C'est le bas du panier de sa filmo.
Et aussi un autre truc, mais sans spoiler, la fin est ardemment repompée sur celle de son premier film, à savoir Bernie, quoi. Quand j'ai vu la fin de ce film-là, je me disais ah ok, attends, il y a course-poursuite avec la police et tout ça, j'ai dit c'est Bernie en fait, et je trouve ça un peu paresseux.
En fait, c'est un peu le négatif de Bernie, parce que Bernie, c'était très, très, très méchant. Et là, c'est très, très, très gentil comme film.
Bah ouais, il y a moins de drogue, il y a moins de... Ça, c'est sûr.
Il s'agit.
Il vieillit aussi, peut-être qu'il se calme, je ne sais pas. Mais en même temps, non, moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez sous-jacent. Moi, je trouve que le début est une grande réussite, par exemple. Ouais, et même, encore une fois, tout ce qui tourne autour du personnage de Virginie Efira, qui est magnifique.
Virginie Efira, elle est au-delà du réel à chaque fois.
Sublime. Où elle est assise sur les parvis d'une église, en train de se parler à elle-même jeune, mais il y a quelqu'un qui le voit, elle passe un peu pour une folle. Moi, je trouve que cette séquence, pour moi, c'est la plus belle du film, en fait. Mmh. C'est-à-dire que là, pour moi, il touche quelque chose qui est à la fois dur, violent, mais en même temps hyper sensible, ce qui, pour moi, est aussi un des traits du cinéma de Dupontel, qui est un cinéma d'une sensibilité extrême, en fait. Très, très forte, enfin, à fleur de peau. Et je trouve que ça, c'est très beau.
Alors, maintenant, ce que je vais vous demander, c'est, je vais vous situer sur l'échiquier Dupontel. Vous allez me dire, quel est votre film de Dupontel préféré ? Péride, vas-y.
Ah, ok. C'est pas fastoche.
C'est pas
fastoche.
Au
dépoté. Je pense qu'après, pour moi, en termes de... C'est-à-dire, abouti, c'est quand même 9 mois ferme. Que je trouve être à la fois toute la colère naturelle et renfermée à fleur de peau, comme je le disais, d'Albert Dupontel, elle est là, mais avec un vrai travail du rythme, un vrai travail de la comédie, une inventivité folle. Moi, je trouve ce film absolument violent et hilarant. Pour moi, c'est un grand Dupontel, 9 fois ferme.
Ouais, et surtout, il y a deux personnages principaux qui ont une égale importance, un personnage masculin et un personnage féminin, qui sont creusés tous les deux, ce qui n'est pas forcément le cas de tous ces films.
Non, donc, et puis Nicolas Marié dedans, qui était un chef-d'œuvre de... Tu vois, il reprend dans Adieu les cons, ce côté comic relief avec l'aveugle, mais ça n'a jamais la drôlerie du mec qui bègue de 9 mois ferme, qui est extraordinaire. Ouais.
C'est surtout que le gag de l'aveugle qui voit pas bien, donc il se prend des murs, c'est peut-être un peu déjà vu et revu, quoi. D'ailleurs, on l'a vu dans La Flamme récemment, avec Florence Foresti. C'est le gag de l'année.
C'était un épisode, La Flamme, c'était pas tout le film, en fait.
Oui, là, c'est tout le film. Mais parenthèse fermée sur La Flamme, on fera peut-être un épisode spécial. Là, je trouve que l'idée était plus drôle et plus inédite. Mais Nicolas Marié est un génie, hein, faut le dire.
Je sentais en toi le fanboy de Nicolas Marié, je sais pas pourquoi. Mais toi, t'aimes bien ça, les underdogs de la comédie française. les visages, les troisièmes rôles,
on le voit quasiment que chez Dupontel, c'est dommage. Hein. Alors après, je pense qu'il fait pas mal de théâtre.
J'aimerais le voir doublage, en fait. Aussi, il est comédien de doublage.
Ah oui.
Ouais. Il a une voix assez carrière. Moi, je le connais parce qu'il doublait des trucs genre Batman et tout ça. Donc voilà, c'est
pour ça. Mais embaucher Nicolas Marié. Moi, je veux plus de Nicolas Marié au cinéma. Ouais, c'est top. Aussi. C'est top comme mec.
Et donc, tu te défausseras pas, Hugo. C'est quoi ton...
Alors moi, c'est de très loin Le Créateur. C'est son deuxième film. Je suis sûr que t'allais dire
Le Créateur. C'est une réponse Hugo Alexandre.
Ah bon. Pour moi, c'est vraiment la quintessence de Dupontel. Comme c'est peut-être le moins connu, je vais le pitcher vite fait. Donc c'est l'histoire d'un mec qui veut écrire du théâtre et un jour il est complètement ivre et il écrit une pièce géniale, mais le lendemain il s'en souvient même pas, mais il a écrit un truc génial et donc il fait un succès monstre avec ça et on lui demande d'écrire une deuxième pièce et il a plus l'inspiration et en fait il essaie de boire, de reproduire les conditions de son premier chef-d'œuvre et il n'y arrive pas. Et donc il est déprimé et à un moment il tue accidentellement un chaton et d'un seul coup l'inspiration revient, mais il a écrit qu'un acte donc il faut continuer, donc il continue à tuer des chatons et ça fonctionne un temps jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus et à ce moment-là quand tuer des chatons est insuffisant, quelle est l'étape suivante, quoi. Et donc voilà, c'est un scénario complètement dingue. C'est pareil, il y a des seconds rôles. Il y a Nicolas Marié, il y a Claude Perron qui est souvent dans ses films, il y a Michel Vuillermoz. Il y a des monologues de Dupontel. Il est très fort là-dedans aussi. Il y a 2-3 monologues où il part dans un délire tout seul, une impro qui sont extraordinaires. Il y a des séquences assez ambitieuses formellement aussi. Il y a des séquences de rêve très belles. Puis c'est méchant, quoi. Et c'est ça que j'aime bien.
Alors moi le plus méchant, c'est je garde Bernie quand même. Bernie,
ouais.
Bernie, c'est quand même un film où une femme tranche à la hachette la main d'un mec en lui disant « finis la branlette ». Et il lui répond « je m'en fous, je suis gaucher ». Et ça, c'est à chaque fois que je me coupe en faisant la cuisine, j'y pense, tu vois.
Certes.
Non, voilà, Bernie, je suis très très fan de Bernie. Je pense que c'est son plus fou, quoi. C'est un film qui pouvait faire qu'à cette époque-là, avec cette énergie-là. Et aujourd'hui, des films globalement comme Bernie, on n'en voit plus, quoi. Ils ont disparu. Et bah écoutez, maintenant qu'on a parlé du Pontal, peut-être vous avez une recommandation autour de son univers. Est-ce que vous avez quelque chose, Hugo? Lance-toi.
Alors moi, je recommande de voir ces sketchs qui sont pour la plupart sur YouTube. Donc en fait, il a fait du one man show en attendant de pouvoir faire du cinéma. C'était pas vraiment ça qu'il voulait faire au départ. Il a commencé par le théâtre et puis il s'est dit tiens, pour gagner de l'argent, je vais faire de la scène. Et en fait, c'est vraiment très très drôle. Il y a déjà un peu tout son cinéma qui sommeille, donc il sait toujours des mecs un peu marginaux de la société. Donc il y a par exemple un sketch sur un mec qui a vu Rambo et qui a envie de le raconter au spectateur. Donc il raconte, c'est Rambo 2, je crois, il raconte Rambo 2 au spectateur et c'est extraordinaire. Et il préfigure un peu des comiques de maintenant, c'est-à-dire qu'il a créé des trucs. Par exemple, il y a un sketch qui s'appelle La Pause, où en fait, bah, c'est sa pause, et donc il s'assoit, et puis il lit le journal. Et en fait, c'est des trucs qui, aujourd'hui, sont un peu à la mode. T'as des Monsieur Fraise ou des gens comme ça qui font des sketchs comme ça. Et Dupontel faisait ça il y a 30 ans, quoi. Et beaucoup d'humoristes d'aujourd'hui se réclament des sketchs de Dupontel. Lui, en fait plus trop, et je crois que c'est pas trop son délire. Lui, il a toujours voulu réaliser des films, en fait, donc je pense qu'on le reverra jamais sur scène. Donc il faut aller sur YouTube et voir ça, ça vaut le coup.
Et toi, Perrine?
Ben, en fait, au début, je voulais aller plutôt vers les qui influencent ce cher Dupontel, mais bon, Charlie Chaplin, Terry Gilliam, c'est un peu évident, et même détente, c'est pas du tout le mot que je veux dire, mais bon, Raymond Depardon ou Ken Loach, mais j'ai plutôt pensé à quelqu'un qui fait quelque chose d'assez similaire. On pourrait dire Carverné de Lepine, qui, pareil, s'intéresse aux petites gens et qui vont en faire des personnages très poétiques et a complètement un art. Mais on a déjà fait tout un podcast sur eux et ils le méritent bien. Mais je pensais à quelqu'un de complètement différent qui est Matteo Garrone, avec Dogman. En fait, je pensais à Dogman où cette fois-ci, on va prendre un personnage qui est aussi cette quintessence des petites gens et qui, à un moment donné, à force de pression sur lui, va finir par devenir ultra-violent, en fait. Va répondre à cette pression morale par une violence physique terrible. Et là où Carverné de Lepine vont utiliser la poésie, Dupontel va utiliser les cartoons, finalement, Matteo Garrone, lui, va utiliser le conte qu'il va détourner comme ça pour parler de quelque chose de très contemporain et très moderne, mais avec finalement un style plus intemporel. Et je dirais que le cinéma Dupontel, je pense que Dupontel pourrait aimer ce cinéma de Matteo Garrone qui va utiliser un autre genre, qui est celui du conte. Il le fait aussi dans Tale of Tales, par exemple, ou même avec le récent Pinocchio. Et il va utiliser ce conte, cette magie, pour finalement poser les problématiques sociales que rencontrent ces personnages. Et je trouve que c'est sublime à regarder, en fait.
Et pour ma part, je vais faire une double recommandation. Une première concernant directement Dupontel. C'est un film, c'est son meilleur film dramatique, à mon avis. Et c'est celui, on l'a pas name droppé, alors je vais pas me priver. C'est Le Convoyeur. Le Convoyeur de Nicolas Bourguignon, qui est un film que j'adore. Et où Dupontel arrive à tenir vraiment en haleine, quoi. Moi, je me souviens de l'avoir vu en salle. C'était vraiment une grosse surprise. C'était un thriller, mais à la française. Et surtout, encore une fois, il y avait une espèce d'angle social. C'est pas Dupontel, il joue pas les gens par hasard, en fait. Mmh. Et Les Convoyeurs, l'accroche de l'affiche disait 1000 euros par mois, 1 million dans chaque sac. Et c'est toute la problématique du convoyeur, c'est que ces mecs-là sont payés une misère à garder une fortune, en fait. Et au-delà de ça, bah, y a tout un suspense qui se crée. Pourquoi qu'est-ce qui se passe au sein de cette petite équipe? Parce qu'il se passe quelque chose de louche. C'est vraiment un super film. En plus, c'est une prestation très étonnante de Dujardin. Et voilà. Donc, Le Convoyeur de Nicolas Boukreïev. Et puisque c'est d'actualité et qu'on peut acheter des livres en faisant un click and collect, c'est bien ça le terme?
C'est ça le mot.
Eh bien, écoutez, il n'y a pas si longtemps, vient de sortir dans une intégrale complète, et je ne saurais que trop vous le recommander, Les Idées Noires de Franquin. Et pourquoi Les Idées Noires de Franquin? C'est parce que je pense que énormément d'humour de Albert Dupontel vient de Franquin et de cette école franco-belge, et principalement ce Franquin qui est noir, très très noir, mais en même temps une forme de Gaston Lagaffe. Ça reste Gaston Lagaffe, mais ça reste un Gaston Lagaffe complètement décadent et
qui meurt à la fin de chaque page, quoi.
Voilà, et déshumanisé. Voilà, c'est ça le principal. Et c'est pas aussi lugubre qu'on le prétend, mais c'est pas non plus à mettre entre les mains de votre petit frère. Donc voilà, je vous recommande Les Idées Noires, qui viennent de ressortir dans une très belle édition intégrale aux éditions Fuite Glaciale. Et donc vous pouvez aller le collecter, appeler un libraire et le collecter, et il fera une chouette vous le vendre. Merci les amis d'avoir participé à ce podcast. Merci d'être allé voir du bon cinéma avant les fermetures, et on croise les doigts pour que les cinémas réouvrent bientôt. J'ai l'impression de me réentendre en avril là.
C'est ça. Il y a un petit effet sensation de déjà vu, déjà entendu. Quoi.
C'est bizarre, hein. Alors que on le sait, hein, c'est pas les cinémas le problème, mais voilà, les cinémas sont fermés. MDR, bah c'est, vous pouvez nous retrouver donc sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées, et sur SoundCloud. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et de regarder les nombreuses comédies qui sont à votre disposition sur déjà dans votre DVD Tech, ou alors sur les chaînes à streamer. Il y a vraiment énormément de choix. Vous pouvez vous changer les idées de manière très facile, ou alors d'être dans un humour très très à cheval sur son époque comme Dupontel. Remerciements à Mathieu qui s'occupe de la technique, et on espère qu'elle a été à la hauteur de ses oreilles. Je croise les doigts, les amis. Et la prochaine fois, on se retrouve avec un autre épisode spécial confinement. Et ça va être bien. Revenez nous écouter. On vous embrasse très fort. On vous dit soyez prudents. À très bientôt. Ciao.